Bonjour, ici David Manise, vous écoutez le podcast Le Survivologue numéro 5. On est le 28 janvier 2022. Alors, il y a deux parties pour ce podcast. La première partie, j'ai envie de revenir un peu sur des commentaires qui m'ont été faits suite au numéro 4 où je parlais des 10 choses qui fâchent que j'avais envie de dire aux Français. Quelques réactions, plein de réactions positives et quelques réactions extrêmement négatives et très en résistance en fait par rapport à ce que j'ai raconté. Et j'ai envie de préciser un peu ma pensée et pourquoi je raconte tout ça. Et ensuite, deuxième partie, on va parler un peu des 10 bouquins, parce que je vous ai promis ça, 10 bouquins qui m'ont marqué dans les deux derniers mois. Alors vous verrez, j'ai dû tricher un peu, mais bref. Alors pourquoi je fais tout ça et pourquoi j'insiste autant sur la rusticité, j'insiste autant sur l'autonomie et au final pourquoi j'insiste autant sur le fait d'être fort et ces choses-là. Pour une raison assez simple de base, c'est que qui peut le plus peut le moins. En fait, ma posture en tant qu'individu, elle est de base dans un élan d'autonomie, mais pas une autonomie dans le sens où je pourrais faire tout seul et ne dépendre de personne, rien à voir. Une autonomie dans le sens où si moi je peux porter mon propre poids, je peux davantage être utile aux autres. Alors je peux être utile à moi-même évidemment, mais je peux être aussi utile à mes proches, aussi utile aux voisins, aussi utile à la société, parce que je prends soin de moi, parce que je pense à moi et parce que je développe mes capacités, mes compétences, mes connaissances, etc. Et c'est un truc qui dérange plein de gens, en fait. Je me rends compte, au vu des réactions qu'il y a eu, que ça fait chier plein de gens que j'ai envie d'être fort. Et qu'il y a des gens qui aient envie d'être fort et qui n'aient pas envie d'être faible, qui n'aient pas envie d'être dépendant, qui n'aient pas envie d'être assisté. Et je ne sais pas pourquoi ça les choque autant, mais il y a vraiment des gens que ça fait réagir. Et j'ai envie de me demander si c'est pas un petit peu une question de « au royaume des aveugles, les bangs sont rois » dans le sens où si personne d'autre fait des efforts, ils sont pas obligés d'en faire non plus. Ou je sais pas trop quoi, je me demande s'il y a pas une petite question politique derrière aussi. Alors, on peut direct se calmer tout le monde parce que j'ai pas de posture politique et j'ai pas envie d'obliger qui que ce soit à être fort et à être puissant et à être un et c'est pas le but du tout et je pense pas que ce soit une manière de fonctionner qui soit supérieure à une autre que de faire comme je fais ou inférieure à une autre, juste chacun est différent et chacun fait à sa manière en fonction de ses valeurs, de ses élans, de ses aspirations, de ses expériences. Et moi, ça me parle de faire comme ça. Et je suis pas le seul, il y en a plein. Et évidemment, dans la société, je fais un peu tâche parce que, en réalité, j'ai plein de solutions à des problèmes que d'autres ont même pas envisagés. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Il y a plein de gens qui font autant, sinon plus d'efforts que moi pour être préparé, pour anticiper et pour être compétent dans des dizaines et des centaines de domaines. Mais je me sens un peu, des fois, comme le marteau brise vite dans le TGV, derrière sa glace, et c'est un peu, en cas de problème, briser la glace, et le reste du temps, laisser-le dans son coin. Et je me rends compte que cette norme sociale, au final, hyper contraignante et hyper sur un rail, me pose vraiment problème, parce qu'il y a une sorte de pensée unique qui se met en place, et de modèles de société absolument et totalement dépendants aux services publics, aux services privés, à la dépanneuse, à tout plein de choses qui privent les gens au fur et à mesure de leurs compétences et de leur capacité à se débrouiller tout seul et à s'entraider à bon niveau avec les gens autour d'eux. Et ça me préoccupe parce que c'est un facteur de résilience des populations qui est en train de s'en aller grâce ou à cause de cette posture-là qui dit que soit l'État va gérer, soit une entreprise va gérer, si on paye, on peut avoir tous les services dont on a besoin. Je fais plein de choses que je pourrais faire par d'autres, et que je pourrais payer pour faire, que j'essaie d'apprendre et de m'entraîner à faire moi-même. Et c'est une posture de base, et ça veut pas dire que j'ai raison, et ça veut pas dire que tout le monde doit faire la même chose, et ça fait pas de moi un mec de droite ou un mec de gauche, ça me fait juste de moi quelqu'un qui a envie de se débrouiller tout seul. Et d'apprendre dans l'opération. Si je suis instructeur de survie aujourd'hui, c'est parce que ça me plaît de devoir progresser dans plein de champs de compétences, plein de domaines différents. Et ça m'a permis, évidemment, d'apprendre des tonnes et des tonnes de choses au niveau individuel, mais aussi au niveau interpersonnel, au niveau de la coopération, au niveau de l'organisation, du leadership. Et l'intérêt pour moi de la survie, c'est que ça donne du feedback instantané sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est comme une caricature d'organisation avec un temps de feedback beaucoup plus court. Et quand on fait quelque chose qui fonctionne en groupe, ça marche tout de suite. Et si on fait quelque chose qui ne fonctionne pas, on le voit tout de suite aussi. Et ça permet d'extrapoler et en tout cas de mettre un coup de stabilo sur les choses qui sont vraiment efficaces en termes de gestion de groupe, en termes de gestion des émotions, en termes de gestion des risques, de plein de choses. Et c'est hyper, hyper enrichissant de prendre ce qui fonctionne dans un cas extrême comme la survie, même simulé, même en stage, même dans un cadre sécurisé, et de tirer les principes de ça pour en faire quelque chose qui soit applicable à la vie de tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, moi. Et c'est quelque chose dont je fais profiter de plus en plus de gens à travers des stages qui ne sont pas des stages de survie, mais dont j'ai pris l'essence dans les stages de survie. Et dans mon vécu à plein de moments dans ma vie. Et vous savez quoi, il y a depuis en 2006-2008 à peu près, un gros mouvement de réappropriation dans la société, de réappropriation de compétences. Les gens, aujourd'hui, ont envie de bricoler eux-mêmes leur maison, ils ont envie de faire leur plomberie, ils ont envie de réapprendre à couper leur bois, ils ont envie d'apprendre à faire du jardinage, de la permaculture, ils ont envie de choses concrètes et de se réapproprier ces compétences. De médecine préventive, de premier secours. Les boîtes qui font du bricolage, on le vend en poupe, mais aujourd'hui aussi, il y a des ateliers en ville où on peut aller louer des outils pour bricoler son truc. On a de l'espace pour travailler. Il y a des garages communautaires ou coopératifs où il y a un mécanicien qui est là pour vous enseigner à faire votre vidange, à changer vos plaquettes de frein. Et vous pouvez le faire avec sous supervision et apprendre à le faire correctement pour ne plus dépendre du garage après pour ces choses de base-là. Au niveau de la maintenance de notre propre corps, également, il y a plein de bons bouquins aujourd'hui qui sont de la mobilité, qui sont des automassages, qui sont des manières d'entretenir son corps aussi, comme on pourrait entretenir sa voiture, pour faire la maintenance de base sur soi-même. Et je vois pas pourquoi on devrait s'en passer au nom d'un modèle mental ou d'un modèle social où on doit, entre guillemets, dépendre de qui que ce soit pour faire ces choses qu'on peut faire soi-même. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal de dépendre. C'est ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit absolument faire comme moi et chercher à se passer de tous ces services-là. Et à des moments, quand je n'ai pas le temps, ben bien sûr que je vais au garage. Et si je suis malade, bien sûr que je suis content qu'il y ait un service public pour me soigner. Je ne vais certainement pas cracher dans la soupe. Au contraire, j'apprécie d'autant plus parce que comme j'ai fait plein d'efforts et que j'y arrive pas tout seul, et ben quand je vais demander de l'aide, j'ai vraiment besoin. Et je suis vraiment content que ce soit là. Et vous savez quoi, je fais pas ça parce que j'ai peur que tout s'effondre et qu'on soit d'un coup privé du service public ou privé des services d'entreprise privée. Pas du tout. Je fais ça parce que ça me plaît. Je fais ça. Si je vis à la campagne dans un coin vraiment paumé et que j'ai du bois de chauffage et un potager, c'est pas parce que j'ai peur. C'est parce que ça me plaît. C'est parce que c'est plus enrichissant humainement, techniquement, intellectuellement, c'est plus stimulant. Ça me plaît. Et donc, non, je ne suis pas survivaliste. Et j'ai rien contre les survivalistes non plus dans l'absolu, parce qu'il y en a plein, en vrai, qui font tout ça, qui se préparent, pas tellement parce qu'ils ont peur de la fin du monde ou d'une catastrophe ou de quoi que ce soit, ils le font parce que ça leur plaît. Et c'est un prétexte pour aller jouer dehors, et c'est un prétexte pour acheter des couteaux parce qu'ils aiment bien les couteaux, et c'est un prétexte pour aller faire du feu le week-end avec leurs enfants et faire griller des chamallows. Et se remettre en contact avec la nature, se remettre en contact avec les éléments, et avec leurs sensations, avec des choses concrètes dont ils sont privés depuis trop d'années. Aujourd'hui, en France, les gens vont globalement assez mal. On est probablement dans les champions du monde de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et je pense vraiment qu'on n'est pas conçus pour être dressés les uns contre les autres pour des problèmes abstraits. Comme les chiffres sur notre salaire ou changer d'écran plasma. On est conçu en tant qu'espèce pour faire face à l'adversité concrète, à des problèmes concrets, ensemble, en se serrant les coudes en petits groupes. Et on le voit en stage de survie, les gens sont bien juste parce qu'ils sont ensemble dans la forêt et autour du feu. Ils sont heureux d'avoir des problèmes concrets à gérer, du genre il pleut, on va monter une bâche et on sera tous au sec, ce sera génial. Et on se raconte des blagues. Et évidemment, s'il y a un problème, une catastrophe industrielle ou une panne de courant, ça ne me pose pas de problème parce que je suis prêt. Mais je suis prêt parce que j'aime être prêt, pas parce que j'ai peur de la catastrophe. Et c'est vraiment toute la différence, elle est là pour moi. C'est que j'ai pas peur. Et ce qui est amusant, c'est que bien souvent, les gens qui dépendent et qui militent pour dépendre du service public ou de l'entreprise privée pour leur confort, le jour où il y a un problème, là, ils commencent à avoir peur. Et ils basculent bien souvent dans l'extrême inverse et ils deviennent survivalistes hyper hardcore dès qu'ils ont vécu quelque chose d'un peu difficile. Et ça me fait un peu rire, j'avoue. Et c'est tout le paradoxe de Sun Tzu qui disait que seuls les guerriers sont pacifistes. Parce que les autres, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas être pacifistes, ils peuvent que subir. Et je trouve que la réflexion est très juste. Et d'ailleurs, tout le domaine de la self-défense, c'est le même problème quelque part. Plein de gens ont peur, ou aiment pas, ou sont méfiants par rapport à la self-défense. Et moi, c'est un champ de compétences que j'ai et que je nourris au quotidien et je m'entraîne pour ça tous les jours. Pas parce que j'ai peur, parce que c'est enrichissant encore là et c'est un travail sur moi de gestion d'agressivité, de gestion d'ego, de prendre du recul par rapport à plein de trucs qui, quand j'étais plus jeune, m'ont amené à être con et qui aujourd'hui me permettent d'être plus en maîtrise de mon côté agressif et de mon côté combatif et de choisir vraiment sciemment et délibérément si j'interviens dans une situation physiquement ou pas, et de quelle manière, d'avoir plus de solutions que de problèmes. Je vous raconte une anecdote toute simple qui m'est arrivée il y a quelques années vers Avignon. À l'époque, je faisais la plomberie dans la maison de mon ex et je sortais du magasin de bricolage avec des raccords sous le bras. Je prends ma voiture et j'arrive dans le rond-point à la sortie de la zone commerciale. Et là, il y avait un SDF qui était au milieu du rond-point et qui s'interposait, qui empêchait les voitures de passer. Et quand les gens klaxonnaient, ils contournaient, ils tapaient sur le capot du plat de la main, ils criaient, ils insultaient les gens, et j'y trouvais ça vraiment très bizarre, quoi. Alors, voyant le truc, j'ai contourné, et j'ai fait un tour complet du rond-point pour voir ce qui se passait. Et ils continuaient, et visiblement, ils essayaient d'arrêter les voitures. Alors, ça a piqué ma curiosité, et je me demandais ce qui se passait. Et quand je suis passé à sa hauteur, j'ai entendu qu'ils criaient « S'il vous plaît ». Et là, ça m'a encore plus interpellé, donc j'ai fait un deuxième tour de rond-point en regardant s'il était armé, s'il avait quelque chose dans les mains, s'il était agressif. Et il avait l'air plus désespéré en réalité que méchant. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui colle pas. Alors j'ai analysé un peu la situation, le mec devait faire 65 kilos, il n'avait pas l'air très, très en forme, et il n'avait pas d'arme sur lui, en tout cas pas apparente. Et moi à cette époque, dans la voiture, j'avais une grosse Maglite, donc une grosse lampe de poche. Très lourde et très solide avec laquelle on peut faire une matraque très efficace. J'avais un spray au poivre. Et j'avais moi dans la voiture avec mes à l'époque 125 kilos de bidoche. Et je me suis dit, bon, bah, au pire, je peux gérer ce mec, il n'y a pas de problème, j'ai la supériorité tactique là. Et donc, je me suis arrêté autour d'un rond-point suivant, j'ai descendu ma fenêtre un petit peu et j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec, il était en pleurs et il m'a dit, putain, il y a mon meilleur pote, il est en train de claquer à l'hôpital et personne ne veut s'arrêter pour m'amener. Et là, j'ai fait, ah, bah vas-y, monte. Et je l'ai amené à l'hôpital. Et il m'a remercié environ 170 000 fois pendant le trajet. Et je l'ai déposé aux urgences, il a couru en me remerciant encore. Et je ne sais pas s'il est arrivé à temps ou pas. Je ne sais pas si son pote s'en est sorti ou pas. Mais je sais une chose, c'est que si j'avais pas été sûr. Au vu du niveau d'agressivité qu'il avait l'air de déployer à ce moment-là, si je n'avais pas été sûr d'avoir l'ascendant sur lui physiquement, je ne me serais pas arrêté en fait. Et cette capacité physique de se défendre, eh ben, paradoxalement, elle permet aussi des fois de prendre le risque de faire monter quelqu'un ou de faire rentrer quelqu'un pour le mettre au chaud ou d'aider quelqu'un. Et dans un cas où on pourrait peut-être plus choisir d'avoir peur et de faire comme s'il n'y avait pas de problème, quoi, et de s'en aller. Et c'est à ça que ça sert pour moi, en fait, d'être fort. Ça sert à être utile, ça sert à être plus humain, ça sert à être plus empathique, ça sert à avoir moins peur pour être moins con, en fait. Et Dieu sait que j'ai du boulot pour être moins con, mais en attendant, j'y travaille, et j'y travaille de toutes ces manières-là. Donc ceux qui me disent, dans des mails un peu incendiaires, que, en fait, je m'imagine que je peux vivre tout seul, etc., etc., et que j'ai besoin de personne, et que je suis meilleur que tout le monde, mais non, vous avez rien compris, en fait. C'est pas le but, du tout, du tout. Et ça a jamais été le but pour moi. Vraiment pas. Alors peut-être que pour certains, ça l'est. Et ils ont peut-être des raisons aussi de choisir ça. Mais moi, c'est pas mon choix à moi. Et m'accusez pas de ça, s'il vous plaît, quoi. Bref, deuxième partie. Mais j'étais obligé de tricher un peu parce que je me rends compte que dans les deux derniers mois, il y a plein de bouquins que j'ai lus qui étaient en anglais. Et ben j'ai choisi de faire un peu du tri là-dedans et d'élargir un peu le champ des mois passés. Et donc, je vous ai trouvé les 10 bouquins qui m'ont le plus marqué en français des derniers quelques mois à la louche. Et donc, j'ai 10 bouquins ici sur la table. Certains m'ont marqué en bien, d'autres en mal. Pas forcément que c'est des mauvais bouquins, mais c'est des bouquins avec lesquels je suis partiellement en désaccord. Et je pense que c'est important de ne pas toujours aller dans son propre sens et toujours confirmer ses biais à soi. Donc je vais essayer d'être honnête et de parler aussi des choses que j'aime moins et de manière à ce que vous puissiez vous faire votre propre idée. Mais je vais commencer par un qui m'a beaucoup plu, qui est de Christian Proutot et Jean-Luc Riva. Le titre c'est GIGN, nous étions les premiers. Alors je suis extrêmement content parce que je vais avoir monsieur Christian Proutot dans un des prochains podcasts. On a déjà pris rendez-vous pour une interview. Et alors, Christian Proutot, c'est le créateur du GIGN. C'est lui qui a sorti le GIGN de terre, ni plus ni moins, et qui a créé la première unité d'intervention, si pas au monde, en tout cas en France. Et c'est vraiment un pionnier des unités d'intervention. Et il a aussi co-créé le GSPR, donc le groupe de sécurité du président de la République. Donc sacré personnage qui était un peu dans tous les coups historiques du GIGN. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce bouquin, nous étions les premiers, parce que déjà il parle dès le début dans son introduction, sa préface et un peu l'histoire du début de sa carrière, de leadership et de bon leadership à mon sens. Il y a un petit passage que je vous lirai sans doute avant l'interview de Monsieur Proutot. Qui est magnifique, où il raconte qu'il a écrit pendant ses classes, pendant la nuit, après une longue marche de 30 km à un rythme infernal. Ils les ont mis évidemment dans une salle bien chauffée pour qu'ils s'endorment, et lui il a décidé de faire une petite sieste. Très malin, il a dormi 10 minutes et après il s'est réveillé, il a écrit, il y avait une interrogation au sujet de la solitude du chef. De point, vous avez une heure. Et il a écrit un texte que je trouve vraiment, vraiment magnifique, donc je vous le lirai peut-être avec sa permission avant de l'interviewer la prochaine fois. Donc le bouquin GIGN, nous étions les premiers, qui est édité aux éditions Nimrod, relate un peu l'historique de la création des premiers entraînements, des premières sélections, à partir de 1973 jusqu'à un peu les premières opérations. On voit les premières armes, les premiers gilets pare-balles, les premiers rituels, les blessés et tout. Enfin, c'était vraiment toute une aventure. Franchement, ils ont créé le truc de toutes pièces. Et c'est hyper intéressant de voir déjà les bâtons dans les roues qu'ils ont eus de par certains et toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils ont voulu créer une unité avec une norme de qualité très très élevée et avec aucun compromis sur l'efficacité des gens. Et donc c'est très inspirant, je trouve. Bref, je vous recommande vivement ce bouquin. Un deuxième que j'ai commencé à lire il y a un moment, parce que je le lis un peu à temps perdu ou plutôt à temps gagné, qui est Daniel Cordier, alias Caracalla. Alors c'est l'autobiographie de Daniel Cordier, qui était le secrétaire particulier pendant la guerre de Jean Moulin. Cordier était un, Il était maurrassien, autrement dit, il était royaliste, il était de base assez antisémite, il venait d'une famille très, très aisée, et quand les Allemands ont envahi la France, lui, il s'est révolté en fait, il a décidé que ça se passerait pas comme ça, il a vu l'armée française capituler en prenant le premier cargo à Bayonne qu'il pouvait et sachant pas, même pas vraiment où il allait débarquer. Il savait pas si ça allait être en Afrique du Nord, il savait pas si ça allait être en Angleterre. Il montait sur un cargo belge de mémoire et il est parti. En disant d'ailleurs je pourrais combattre. Et donc il a décidé de se barrer et c'est vraiment intéressant de voir tout son cheminement. Déjà son entraînement, son idéalisme, la manière dont il est rentré en résistance en fait contre l'occupation et il a finalement débarqué en Angleterre. Il a été récupéré par l'armée de Gaulle, qui était, à l'époque, pensait-il, en tout cas pas républicain. Et ce flou artistique lui a permis de s'engager dans le mouvement, et petit à petit, en côtoyant Jean Moulin, il a petit à petit changé son fusil d'épaule au niveau politique, et il s'est retrouvé notamment à héberger un juif, à un moment donné, quand il était sur Lyon. Où il organisait vraiment toute la tête de la résistance au niveau opérationnel, au niveau des communications, au niveau de la distribution d'argent, au niveau de la mise en relation de toutes les têtes de mouvement et de tous les chefs. Il a été présent au moment où le Comité national de la résistance a été créé par Jean Moulin, un peu d'arrache-pied. Et on voit vraiment l'évolution politique. De Cordier au fil du temps et donc de bien à droite, il est devenu bien à gauche. Et c'est intéressant de voir comment, face à un ennemi commun, tous ces courants politiques se sont plus ou moins harmonisés pour finalement coopérer autour de la résistance. Et donc, bon, c'est un gros pavé, ça fait 1100 pages par là. Et c'est très agréable à lire malgré tout. C'est un peu écrit à l'ancienne, mais c'est quand même très, très lisible et très dense d'informations pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance en particulier. C'est vraiment bourré, bourré d'informations. Donc chaudement recommandé. Il y a vraiment tout l'aspect humain évidemment qui est mis en avant. Alors, pardon, Alias Caracalla, c'est édité chez Folio. On continue dans la Deuxième Guerre mondiale et on change de niveau de granularité. J'ai trouvé un très très petit bouquin qui a été écrit par un gamin qui à l'époque avait 16 ans. Bon, c'était écrit bien plus tard, mais par un monsieur qui s'appelle, enfin qui s'appelait parce qu'il est décédé maintenant, Pierre Botchkovski. Dont le père était juif et qui s'était un peu planqué dans le Vercors pour échapper aux persécutions. Et un jour, il a vu à une intersection d'un village dans le Vercors un chasseur alpin qui était en tenue de chasseur alpin et ils sont allés voir en disant: mais vous allez vous faire tuer, il y a les Allemands qui arrivent et tout. Et il dit: ouais, je sais, mais on bloque le Vercors et ça y est, c'est parti, c'est la guerre, quoi. Pierre Bott, ou Beau, qui a été. Qui s'est. Fait baptiser pendant la guerre pour avoir un peu des faux papiers, s'est retrouvé à être enrôlé un peu très rapidement, en tout cas par l'officier des chasseurs alpins en question qui disait qu'il avait besoin d'un secrétaire et de quelqu'un qui savait taper à la machine pour taper ses ordres et les porter à gauche et à droite. Et donc, avec sa mobylette, il a parcouru le Vercors pour amener les ordres des officiers aux différents points du Vercors. Et donc, ça raconte sa guerre à lui, qui a été d'assez courte durée, parce que ça commence en. Ça commence genre en juin 1944, et ça se termine en août 1944, par là. Mais l'intérêt pour moi de ce petit bouquin, c'est vraiment le vécu de terrain d'un seul participant qui raconte avec sa vision à lui. Des choses qu'on lit dans d'autres bouquins et ça complète évidemment enfin la vision d'ensemble, mais je trouve ça particulièrement intéressant, vu que je m'intéresse beaucoup au sujet, parce que j'ai envie d'en faire un podcast d'ailleurs, au sujet de l'organisation de la résistance et de l'auto-organisation qui s'est mise en place pour pallier au manque de leadership pendant la résistance dans le Vercors. Voilà, donc ça a été édité aux éditions Peuple Libre. La bataille du Vercors par Pierre Bott, B-O-T. Donc de son nom entier, Botchkovski, Pierre. Je continue dans la même veine. René Ladet, ils ont refusé de subir. Alors René Ladet était un cheminot à Porte-les-Valence. Juste à côté de chez moi, et donc il était cheminot, et donc il était syndiqué, il était communiste, et j'ai beaucoup apprécié son point de vue de résistant, parce qu'il était saboteur, il a fait énormément de coups et d'actions, ils ont fait à un moment donné péter 34 locomotives une nuit, ils ont aussi beaucoup récupéré de wagons, de bouffe, de munitions, de plein de choses pour les résistants. Et ils se débrouillaient pour distribuer tout ça sur le Vercors. Et donc, c'est... Enfin, pas que sur le Vercors, d'ailleurs, un peu partout. Et donc, ils ont eu une action vraiment stratégique au niveau des convois ferroviaires, des nœuds ferroviaires. Ils ont fait péter des rails, ils ont fait péter plein de trucs. Et c'est vachement intéressant aussi de voir que son point de vue politisé communiste n'était pas du tout incompatible avec l'action de la résistance dans le Vercors, qui était plutôt faite par des chrétiens de droite. Et j'ai plein de petits bouquins qui parlent du même sujet avec des points de vue différents, et tout le monde raconte partiellement la même chose, c'est vraiment intéressant. Bref, René Ladet, ils ont refusé de subir. C'est édité... je vois pas l'éditeur. Achevé d'imprimer en novembre 87 sur les presses de l'imprimerie Vézian, père et fils à Cray. Alors Vézian, père et fils à Cray, c'est l'imprimerie, mais aussi la papeterie, et c'est là que j'ai acheté les trucs, mes cahiers et mes stylos. Du coup ça a l'air d'être auto-édité. Encore la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai envie d'en parler une dernière fois avec dans une autre, complètement autre zone géographique. Et c'est l'histoire d'un super badass. Alors, franchement, j'ai envie de dire énorme respect. Je connaissais pas trop le personnage, je me souviens plus où j'ai entendu parler de lui la première fois. Mais ça fait pas longtemps que je suis au courant de son existence. Witold Pilecki. Alors, Witold Pilecki, c'est un officier de réserve polonais qui a décidé de se faire volontairement arrêter dans une rafle et de se faire interner volontairement dans le camp d'Auschwitz. Son but était de constituer un réseau de résistance à l'intérieur du camp. Et à l'époque, avant de rentrer dans ce camp, ils n'étaient pas au courant des atrocités qui avaient lieu, et il a essayé de... il a essayé de prévenir, en fait, par radio, parce qu'ils sont bricolés un poste émetteur à l'intérieur du camp. Il a essayé de prévenir sa hiérarchie et ils l'ont pas cru. Et du coup, le mec, il est resté 3 ans, plus ou moins essayer de survivre et essayer d'organiser une pseudo-résistance, mais c'était extrêmement difficile, évidemment. Et du coup, il s'est évadé pour essayer d'aider ses camarades de l'extérieur. Alors, dans le genre ultra badass, je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis. Et du coup, une fois la Pologne... sous régime communiste, il s'est opposé au régime communiste et il s'est fait fusiller en 47. Alors, le mec, il lâche pas l'affaire, quoi. Ça a été publié aux éditions Champvallon, collection Époque. Et je trouve que c'est vraiment inspirant. Alors, c'est un peu fastidieux et un peu documentaire. Et ça fait un peu empilage de rapports et de sources documentaires. Et c'est pas amené à la sauce romancée comme je viens de vous l'amener. Mais c'est vraiment intéressant de lire comment le mec a fait pour rentrer, pour sortir, pour survivre. Et l'incrédulité de sa hiérarchie qui disait « Mais non, mais c'est pas possible, il exagère. Vas-y, il a pété un plomb, on s'en occupe pas, on fait comme si ça n'existait pas. » Bref, très, très instructif. Et je me sentais seul pour lui, franchement, en lisant le bouquin. J'étais à la limite pas bien. Alors voilà, j'ai fait le tour pour la Deuxième Guerre mondiale, maintenant je change de sujet. Dans les bouquins qui m'ont bien marqué très récemment, c'est le bouquin de Christian Clot que j'ai eu à l'épisode 4. Non, pardon, à l'épisode 3. Qui s'appelle Explorer demain. Et dans ce bouquin, alors vous irez écouter le podcast avec Christian qui est très intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui, à mon sens, a une vision à la fois réaliste et optimiste de l'avenir et de l'être humain, et qui a une approche qui est très scientifique de l'adaptation, du changement et de la manière dont l'humain s'organise et s'adapte à ce changement. Et je trouve que sa vision de l'exploration, qui est très distincte de l'aventure, sa vision de l'exploration, elle est très humaniste et très pleine d'espoir et de lucidité et d'intelligence. Bref, je radote un peu, mais prenez ce petit bouquin et lisez-le. Franchement, c'est édité chez Pocket. Christian Clot, Explorer demain. Ça se lit en 1 heure. Même pas 200 petites pages, et c'est vraiment super. Gros bouquin que j'ai lu en mode récréatif, du coup, parce que je lis plein de bouquins pour le podcast et par intérêt personnel, mais là, j'avais envie, et c'est la première fois depuis des années que je lis un bouquin juste pour le plaisir. Alors j'ai envie de vous en parler parce que c'est pour ça qu'il m'a marqué, déjà. Et c'est La pierre et le sabre d'Eiji Yoshikawa, qui raconte l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est quelqu'un qui est un personnage un peu mythique au Japon, et on a un peu du mal à cerner les contours historiques du truc. Évidemment, Yoshikawa publie La pierre et le sabre avant la Deuxième Guerre mondiale, en 32, et de mémoire, je suis plus sûr, mais bref, non, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le moment où le Japon essaie de se structurer un peu au niveau national, et se cherche un peu des symboles et des héros, et donc Musashi va devenir justement un de ces symboles et un de ces héros nationaux. Du coup, forcément, l'histoire est romancée, l'histoire est un peu sans doute déformée, j'en sais rien, j'ai pas pu vérifier grand-chose au final. Mais c'est quand même une belle histoire, et c'est une histoire très inspirante pour ce qui est du parcours initiatique de Takezo, qui devient Musashi. Et qui devient Musashi suite à une épreuve vraiment, vraiment atroce. Et je vais pas spoiler, mais franchement, si vous avez envie de voir comment quelqu'un peut partir de la bête sauvage et devenir maître spirituel quelque part, c'est vraiment très inspirant, c'est vraiment un super beau bouquin, donc je vous le recommande aussi très fortement. C'est édité chez J'ai lu. Enlevé un truc sérieux. Alors un bouquin avec lequel j'ai été en bonne partie en désaccord, pas tellement sur le fond, mais sur le postulat de départ. C'est L'énergie du déni de Vincent Mignoreau. Alors Vincent Mignoreau, c'est quelqu'un que j'aimerais bien. Alors je ne l'ai pas invité encore. Mais j'aimerais bien peut-être l'avoir sur le podcast pour discuter un peu de l'effondrement et de comment on va tous mourir et tout ça. Et je suis assez enfin, je suis pas en désaccord avec lui sur ses analyses, mais je suis en désaccord avec lui sur le fait qu'il y a un problème. Il parle beaucoup du déni face à l'effondrement, il parle beaucoup du déni face à plein de choses, et c'est. Comment dire, il y a une espèce de discours chez lui que j'ai vu à plein d'autres endroits, de il n'y a pas de solution. Et ce postulat de départ-là me dérange un peu parce que j'ai l'impression que on dit la même chose mais très différemment. Dans le sens où il n'y a pas de solution pour sauver l'économie telle qu'elle est, il n'y a pas de solution pour sauver notre niveau de vie et notre niveau de consumérisme tel qu'il est. Peut-être, mais il n'y a pas de solution pour vivre et bien vivre, je suis pas si sûr, et donc j'aimerais bien pouvoir discuter avec lui de tout ça et voir de quoi il parle précisément. Ceci dit, l'énergie du déni analyse un peu comment la transition énergétique risque d'augmenter les émissions de CO2 plutôt que de les diminuer, et que c'est pas forcément une solution de changer de mode d'énergie, Et de faire comme si y avait vraiment des solutions pour maintenir notre niveau de dépense énergétique et notre niveau de gaspillage énergétique et que ça puisse passer quand même. Et évidemment, je suis d'accord avec cette idée-là. Je pense que, du haut de mon vélo, hein, je pense qu'il y a ce qui peut potentiellement sauver notre planète et notre économie, ce serait une remise en question du gaspillage énergétique qu'on fait et notre manière de consommer des produits inutiles ou peu durables. Ça, c'est tout un débat, mais bref. Et moi, personnellement, j'ai pas l'impression que ce soit si grave si notre économie financière, etc., s'effondre ou change de forme un petit peu. Je suis pas en stress avec ça, en fait. Mais bon, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il y a des risques que je vois pas. En attendant, Vincent Mignoreau, l'énergie du déni. Aux éditions Les Incisives. Non, pardon, collection Les Incisives, rue de l'Échiquier. L'avant-dernier. Alors, c'est un pote d'un pote qui l'a écrit et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est Nicolas Zeller, Corps et âme. C'est l'histoire un peu autobiographique d'un médecin des forces spéciales qui témoigne de sa carrière, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu d'autres vivre aussi, en tant que médecin et en tant que militaire, et il distingue vraiment pas les deux. Il dit, je suis pas seulement médecin, je suis pas seulement militaire, je suis médecin militaire. Et il a une vision de l'humain qui est à la fois très réaliste et très qui permet et qui donne des pistes de développement personnel pour s'adapter à l'adversité et pour vivre dans l'adversité. Un peu une éthique en béton armé aussi. Et j'ai trouvé vachement intéressant sa vision à la fois de l'institution militaire, à la fois des militaires, des générations plus jeunes, plus anciennes, de l'articulation entre tout ça, de la société civile, du gouvernement qui est là en filigrane. Et je trouve touchant en fait son intelligence et sa capacité à voir les choses en face. Donc Nicolas Zeller, Corps et âme, c'est chez Talendier. Et le petit dernier que j'ai lu il y a un petit moment, celui-là. Alors j'étais, c'est un groupe d'humanitaires à qui j'ai donné un stage il y a un an par là, qui m'a fait découvrir ce bouquin, qui s'appelle La densification de l'être, se préparer aux situations difficiles. C'est écrit par trois personnes, Gérard Chaput, Christian Vénard et Guillaume Vénard, qui sont deux, ou Venard, Venard, je sais pas comment il faut prononcer, qui sont deux frères donc. Et ce bouquin parle quelque part de se préparer aux situations vraiment difficiles avec un espèce de petit manuel, une espèce de série d'exercices et de théories aussi pour comprendre comment on fonctionne face à l'adversité et dans les situations vraiment difficiles. Il n'est pas question de situations difficiles du genre je me suis cassé un ongle ou j'ai perdu mon doudou. Il est question de situations difficiles du genre faire face à la mort, faire face à des blessures graves, faire face à la mort d'autrui, enfin, comme on peut devoir y faire face à la guerre, ou dans une zone de guerre, en tant qu'humanitaire, ou dans une situation de survie. Et ça parle de préparation intérieure à tout ça, et de préparation physique aussi. Et j'ai trouvé ça extrêmement riche, même si je suis pas d'accord avec tout, et je trouve l'approche peut-être un peu à l'ancienne hardcore, il y a plein de bons trucs à prendre là-dedans, selon moi. Et j'ai commencé à mettre en pratique certaines. Alors je suis déjà un peu un bourrin pour ces choses-là, mais j'ai gratté quand même deux trois trucs. Alors je vais pas spoiler non plus, vous achèterez le bouquin. C'est édité chez Pipa, La densification de l'être. Voilà, j'ai fait le tour. Petit podcast aujourd'hui du coup, et c'est bien aussi de parler moins des fois, n'est-ce pas? Si vous voulez soutenir le podcast, vous vous rendez sur www.survivologue.org et il y a un petit onglet soutenir. Alors j'ai acheté deux micros, je vais acheter un billet de train pour aller interviewer Monsieur Proutot la semaine prochaine, etc., etc. Ça coûte un peu des sous quand même ce truc, mais je ne veux pas le faire payer. Et donc ça restera gratuit et sans publicité quoi qu'il arrive. Et même si vous ne donnez rien, je continuerai quoi qu'il arrive. Ceci dit, un petit 1 euro par carte bancaire est apprécié si vous avez envie. Sinon, c'est pas grave. Si vous voulez soutenir aussi, vous pouvez partager ce podcast, le faire connaître à tout le monde, parce que mon but c'est de partager ces infos avec le plus grand nombre de personnes possible, pour que les gens réfléchissent et aient des sons de cloche peut-être un peu différents de ce qui se passe dans le mainstream. Mon but aussi c'est de ne pas dépendre exclusivement des réseaux sociaux, et du coup je reste sur un hébergement que je paye moi, et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Alors. Bah, c'est tout en fait. Allez, restez pipou.